les jardinières.
Samedi prochain, c'est Noël, mais avant ça, on vous offre le plus beau des cadeaux. Une heure en compagnie des jardinières. Bonjour Steve Noël.
Bonjour Mylène, j'espère que vous avez été sage.
Moi, toujours.
Et pour Bonjour à toutes et à tous.
Pour cette dernière de l'année 2022, nous avons le plaisir de recevoir Claudine Miseré. Bonjour Claudine.
Je crois qu'elle a disparu. Claudine,
elle est peut-être encore coincée dans les glaces. Bonjour Claudine.
Revenez à nous Claudine. Je sais qu'elle a eu quelques petits pépins ce matin.
De glace.
De glace justement.
Écoutez, elle a fait
pirouettes sur les routes. Mais je pense qu'on va la retrouver tout à l'heure.
Oui, on va mettre un petit peu de musique.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Claudine. Comment allez-vous?
Je vais très très bien.
On est contente de vous entendre.
Rassurée.
Revisions donc. Bonjour Claudine.
Bonjour tout le monde.
Claudine Miseré, vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. Soyez la bienvenue.
Et merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h, les jardinières.
Brouillard givrant et pluie verglaçante étaient au programme et sont toujours au programme ces derniers jours. On a beaucoup vu passer la saleuse sur les routes. Alors le sel, c'est magique pour faire fondre la glace, mais quand même pas terrible pour la nature. Vous nous en aviez d'ailleurs parlé quand on parlait des composts, que c'était pas génial pour nos petits amis les vers de terre. Est-ce que vous avez quelques alternatives à nous proposer pour éviter la gamelle devant notre maison ? Claudine.
Alors la première chose, ce serait de laisser la neige, parce que finalement la neige, ça tient sur la glace. Mais si vous voulez enlever la neige, bah, y a toujours les gravillons ou bien les petits copeaux, ce genre de choses.
Et ça, c'est facile à trouver parce que des copeaux, si on n'a pas de tronçonneuse...
D'arbres.
Bah alors non, ce n'est pas hyper facile à trouver, mais c'est vrai que justement, je trouve la solution la plus facile, ça reste de mettre de la neige, en fait, tout simplement, hein, sur votre allée, quoi.
Mettre de la neige pour que ça glisse moins.
Oui, exactement.
Ok, c'est un peu contre-intuitif, mais...
Oui, je sais, mais en fait,
ça glisse moins que la glace.
Neige, oui, exactement, voilà. En fait, c'est que la neige s'accroche sur la glace et après, nous, on s'accroche sur la neige.
Bon, ben, la prochaine chute de neige, vous savez ce qu'il vous reste à faire, remettez de la neige. Merci Claudine, grâce à vous, on va garder un coccyx entier. Restez avec nous jusqu'à 8h, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs, auditrices aussi. Et ben, si vous êtes de l'autre côté du poste, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos questions. Ça se passe soit par le formulaire en ligne disponible sur notre site internet, avec possibilité d'y ajouter une photo. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 939, il faut juste mettre jardin au début de votre message pour que ça arrive bien dans notre boîte aux lettres. Jardin, votre question et votre prénom si possible. Et puis sinon, vous nous appelez en direct et on papote de vive voix. C'est bien pour pouvoir nuancer son propos et pas être limité par le nombre de caractères. Ça se passe au 0901 70 20 20. C'est 36 centimes la minute.
Et on se retrouve dans un instant après une pause musicale. Claudine, vous allez nous parler de plantes aromatiques et médicinales.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, Claudine, vous allez nous parler des plantes aromatiques et des plantes médicinales et nous expliquer comment les mettre en place dans son jardin. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certaines plantes sont considérées comme médicinales ?
Alors, il y a beaucoup de plantes qui sont traditionnellement utilisées pour soigner, donc que ce soit des maux d'estomac, des coups de soleil, en passant par les états dépressifs. Et en fait, ces plantes, souvent, elles sont utilisées depuis vraiment des générations et des générations de façon empirique. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'elles sont médicinales. Mais depuis un certain temps, les analyses chimiques permettent d'étudier vraiment ces plantes et puis d'identifier certains principes actifs, donc des molécules ou des groupes de molécules qui ont un effet sur le corps humain et qui permettent de soigner. Et c'est ça qui fait théoriquement qu'elles soient médicinales, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas avec ces plantes. Donc on remarque qu'une molécule à elle seule n'explique pas pourquoi une plante est médicinale. Souvent, c'est plusieurs molécules ensemble qui ont un effet conjugué qu'on appelle totum, finalement. Et ce totum, en fait, il est encore très mystérieux pour nos amis les scientifiques. Donc, pourquoi une plante est médicinale, parfois, on n'arrive pas à l'expliquer. Mais en tout cas, ce qu'on appelle aujourd'hui plante médicinale, c'est vraiment une plante utilisée depuis longtemps pour soigner toutes sortes de maux.
Alors, il existe une multitude de plantes médicinales et aromatiques, hein, ça va être le thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner une liste, on va dire, non exhaustive des plantes les plus connues, peut-être les plus courantes ?
Alors, déjà, c'est vrai qu'on fait souvent une distinction entre les plantes aromatiques et médicinales. Donc, les aromatiques, ce serait plutôt celles qu'on utilise dans la cuisine pour aromatiser toutes sortes de plats. Et les médicinales, ce serait celles qu'on utilise plutôt pour soigner. Mais en réalité, la plupart des aromatiques ont des propriétés médicinales et inversement, les propriétés médicinales, les plantes médicinales sont souvent utilisées comme des aromatiques. Donc finalement, on peut faire un melting pot de tout ça. Et parmi les plus connues, bon, évidemment, il y a le romarin, le thym, la sauge, l'origan, la marjolaine et la lavande. Mais il y a aussi le basilic, la ciboulette, le persil, la menthe, qui sont utilisées plutôt fraîches. Et bien sûr, nos plantes sauvages du coin, donc le pissenlit, les orties, le pavot, le millepertuis, le sureau, etc., qui sont aussi des plantes médicinales, même si en général, elles sont plutôt utilisées dans la cuisine.
C'est fou ça, en fait, on mange et on se soigne en même temps sans le
Exactement.
Savoir.
Exactement.
C'est magique. Claudine, si vous ne deviez parler, nous parler d'une plante aromatique ou médicinale moins connue, voire pas du tout connue, ça serait laquelle et pourquoi?
Alors, il y a une plante que j'aime beaucoup, elle s'appelle agastache, donc elle s'écrit comme elle se prononce, agastache. Il y a plusieurs espèces qui sont utilisées, agastache rugosa et agastache feniculum. Et c'est une plante aromatique et médicinale qui vient d'Amérique du Nord. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle a un goût anisé qui est vraiment super bon. Donc, elle peut être utilisée pour aromatiser des salades, des biscuits, des plats, toutes sortes de plats. Elle fait des super beaux épis floraux avec des petites fleurs violettes qui sont adorées par les abeilles et tous les insectes butineurs. Et puis, moi, je l'aime beaucoup parce qu'en plus d'avoir un bon goût et d'être mellifère, elle s'adapte facilement à tout type de sol. Elle est vivace, donc ça fait quand même moins de boulot parce qu'elle résiste d'année en année. Donc voilà, c'est plus facile. Et elle a des propriétés médicinales puisqu'elle est utilisée traditionnellement par les Indiens d'Amérique du Nord pour soigner notamment la toux, les refroidissements, la fièvre et les problèmes de cœur, tels que la tristesse.
Oh, voilà.
Ou le bonheur.
Ou
ça
le
peut
bonheur.
Amplifier aussi les
bon.
États positifs.
Voilà, alors,
pourquoi pas.
C'est ça.
Alors, justement, quand on entend le mot aromatique, bah, on arrive à se l'imaginer, la plante qui donne du goût à un plat, un goût particulier, une saveur. Par contre, pour les plantes médicinales, c'est peut-être un peu plus complexe. Quel genre de propriétés médicinales peuvent avoir ces fameuses plantes,
alors,
dans les grandes lignes?
Alors, c'est hyper vaste. Après, c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui sont connues pour avoir traditionnellement un usage. Puis maintenant, comme je disais, avec les analyses, on se rend compte que certaines plantes ont d'autres usages finalement. Mais ça peut être par exemple faciliter la digestion, réguler le transit, être anti-inflammatoire, atténuer les douleurs, régénérer les tissus évidemment, renforcer le système immunitaire, aider à l'endormissement, etc., etc. Et ce qui est très utile en ce moment de grand froid, évidemment, soigner
faire de l'électricité.
Alors non, malheureusement, elles font leur propre électricité, leur propre nourriture. Franchement, elles sont trop fortes.
Hein. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'on fait là?
Ouais, c'est vrai quoi.
On est là pour nourrir les plantes en fait.
Voilà.
On est en hiver et il y a un dicton qui dit qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Vous en pensez quoi, Claudine? C'est vrai?
Bon, alors, la sauge ne soigne pas tout. Hein. Voilà, il n'y a aucune plante miracle qui soignerait tout. C'est comme si on disait une aspirine éloigne tous les maux, quoi. Donc, ce n'est pas vrai. Mais la sauge est vraiment une plante condimentaire bien connue, évidemment, hein, le ragoût à la sauge et tout ça. Mais elle a aussi vraiment des propriétés qui sont connues. Enfin, elle est connue pour avoir des propriétés antiseptiques. Donc, c'est un désinfectant naturel. Elle est antispasmodique et donc elle va réduire les contractures musculaires et les douleurs. Elle aide à la digestion et puis pour vous mesdames, elle aide à faire venir les menstruations quand on a des soucis de menstruation. Donc c'est une plante qui est quand même bien utile et puis elle sent super bon. Et moi j'aime bien parce que quand je suis au jardin et puis que j'ai pas ma brosse à dents sur moi, en fait ça fait une petite brosse à dents naturelle. Donc je prends une feuille et ça structure un petit peu duveteuse comme ça. Et son goût un peu frais fait que quand on se frotte les dents avec, en fait, ça rafraîchit la laine et puis ça nettoie les dents.
Une pensée à toutes les feuilles de sauge qui finissent en brosse à dents. Merci à elle d'ailleurs. Merci Claudine, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous nous donnerez quelques conseils pour mettre en place son propre jardin de plantes aromatiques et médicinales.
7h, 8h. les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à Charmoy, on parle plantes aromatiques. Claudine, est-ce que certaines plantes aromatiques ou médicinales sont quand même compliquées à faire pousser ou à entretenir ?
Ben, en fait, non.
Oh.
Mais finalement, si on veut des plantes qui ont du goût, qui sont saines et qui poussent bien, c'est très simple, il suffit de reproduire leurs conditions de vie naturelles, donc leurs conditions sauvages. Donc l'idée, c'est vraiment que vous allez vous renseigner sur la plante, vous allez vraiment apprendre à connaître cette plante, voir où elle pousse, comment, quel est son cycle, quel est son climat préféré, son type de sol, son hygrométrie préférée, etc., etc. Donc naturel. Et puis vous allez essayer de reproduire ça chez vous. Donc ça peut être des plantes qui aiment des sols secs et arides, par exemple la lavande. Ou voilà, si vous la mettez dans un sol trop humide et trop riche, en fait ça va vous faire un énorme plant, mais qui aura aucun goût. Au contraire, si vous mettez une menthe qui aime plutôt les sols humides, si vous la mettez dans un sol sec, en fait, elle va sécher, elle va rien donner. Donc finalement, vous allez vraiment partir à la rencontre de ces plantes, apprendre à les connaître et puis vraiment les chouchouter dans le sens où vous allez vraiment leur recréer leur habitat naturel. Et si vous faites ça, en fait, c'est pas du tout compliqué. La plante, elle va bien se comporter, bien grandir, avoir du goût. Et puis voilà quoi, donc c'est pas compliqué en fait.
Et pour débuter, quelles plantes sont les plus faciles et les moins pénibles ?
Les moins pénibles. Mais il n'y en a aucune qui est pénible. Hein.
Ouais, ok, d'accord.
Non, mais vraiment une plante qui est facile, ce serait la menthe, parce que la menthe, elle se reproduit très, très facilement à partir d'un bout de tige que vous auriez acheté en supermarché même, hein, ou bien un bout de racine donné par un ami. Et en fait, si vous la mettez dans un sol justement qui est assez humide, en fait, elle va refaire des racines et c'est comme une étoile de mer, quoi. En gros, elle refait tout un plan à partir d'un bout de racine. Et elle aime un sol justement humide et riche. Donc, il suffit d'avoir votre petit bout de menthe, la mettre dans un pot avec un arrosage suffisant et elle va vraiment repousser, quoi. Et si ça, c'est super facile.
Pardon. On veut commencer son jardin. On a besoin de beaucoup de place pour ces plantes aromatiques médicinales.
Alors, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se poser la question, quelle plante est-ce que j'aime ? Parce que finalement, quelle plante je vais utiliser ? Ça ne sert à rien d'avoir 50 plantes qu'on ne va pas utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment que vous fassiez votre petite liste. Voilà, j'aime telle plante, leur goût, ou bien j'ai envie d'avoir telle plante parce que je les trouve jolies, etc. Et puis, en quelle quantité vous les voulez ? Donc finalement, s'il vous faut 3 plantes médicinales ou aromatiques, ça ne va pas prendre de place. Mais si vous aimeriez un grand jardin, ben là, ça va vraiment changer la place dont vous aurez besoin. Donc une fois que vous avez défini votre liste de plantes préférées, entre guillemets, vous pourrez regarder dans votre jardin où se trouvent les endroits préférés de ces plantes, justement en fonction de leur biotope préféré. Et vous allez recréer ces biotopes, les aménager, etc. Et ensuite, il va falloir peut-être un petit peu de matériel justement pour créer ces biotopes. Par exemple, des plantes qui aiment des sols riches, vous allez peut-être devoir enrichir avec du compost. Les plantes qui aiment des milieux plutôt secs et arides, vous allez peut-être devoir surélever vos plates-bandes pour que ça draine davantage, ajouter des cailloux, peut-être du sable. Et ça dépendra vraiment des plantes.
Merci Claudine, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
7h. 8h, les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy.
Claudine nous parle de plantes aromatiques et médicinales et répond également à vos questions jardinage qu'on attend soit par téléphone au 0900 70 20 20, toujours pour 36 centimes la minute, soit via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Vous pouvez même joindre une petite photo de votre plante ou alors soit par SMS en tapant jardin, un espace, votre question et votre nom, vous nous l'envoyez au 939.
Mais d'abord Claudine, on va continuer notre discussion autour de votre domaine de prédilection, ces fameuses plantes aromatiques et médicinales. On en a fait le portrait tout à l'heure, il y a plein de belles choses à apprivoiser. Et la grande question maintenant, ben, on va s'y mettre, mais quand est-ce qu'il faut commencer les cultures d'herbes aromatiques et médicinales ?
Alors si c'est des vivaces, finalement vous allez acheter vos plants dans une jardinerie ou n'importe quoi, chez un pépiniériste ou quoi. Et puis ces plants, en fait, l'idéal, expérience faite, c'est de les replanter en fait en automne parce qu'il y aura une meilleure reprise et vous aurez gagné une année en fait sur la récolte. Parce qu'une fois que votre plante elle est plantée, il faut quand même du temps pour qu'elle grandisse suffisamment pour qu'on puisse récolter. Donc le mieux, en fait, c'est de les planter à l'automne. Et du coup, l'année d'après, vous pourrez déjà récolter un petit peu. Alors que si vous les plantez au printemps, elles vont prendre plus de temps à s'enraciner, etc. Et la récolte ne se fera que l'année d'après. Mais si vous les plantez au printemps, ça va aussi. Hein.
Alors, on est encore en automne, quoi, 4 jours ?
Non, alors là, c'est trop tard. Quand même, c'est complètement gelé. Non, quand même.
Mais si on habite plus sur le littoral et qu'il n'y a pas, comme dans le canton de Neuchâtel, où il n'y a pas encore la neige ?
Oui, ça pourrait aller, ouais. Il faut juste peut-être les protéger un petit peu. Mais oui, normalement, ça va. Il faut juste qu'elles aient le temps de s'enraciner, quoi. Mais normalement, ça va. L'idéal, ça reste quand même septembre, octobre, voire novembre. Là, on est un poil tard, quoi. Mais ça pourrait encore aller dans les endroits où il fait quand même suffisamment chaud. Mais après, pour toutes les plantes, de façon générale, on peut toujours repiquer, replanter au printemps. Et puis, pour toutes les annuelles, en fait, on va faire les semis comme les légumes, finalement. Donc, on va faire nos semis dans un endroit protégé, les arroser, voilà, les chouchouter. Et puis, on va les repiquer, en général, après les risques de gelée. Et puis, elles vont faire leur cycle pendant l'année. Elles vont mourir et voilà.
Merci Claudine. Alors là, on a parlé de pleine terre. On peut aussi imaginer ces plantes aromatiques ou médicinales sur son petit ou son grand balcon en ville, par exemple.
Ah oui, alors tout à fait. Finalement, vous pouvez faire, comme on disait, finalement, reproduire les conditions aimées par les plantes dans des jardinières séparées. Voilà, créer vos petits biotopes et ça va parfaitement sur un balcon en ville. Et puis les insectes butineurs vont aimer ça. Ça va leur donner un petit peu de nourriture. Et parfois, pour certaines plantes qui, justement, chez nous, ne survivent pas à l'hiver, vous allez de toute façon devoir les mettre en pot parce que vous allez devoir les rentrer pour l'hiver. Donc, typiquement, une verveine, chez moi, là, en Ajoie, où il fait moins 10 actuellement, elles ne tiennent pas, quoi. Donc, elles sont en pot et puis je les rentre dans un jardin d'hiver pour l'hiver. Donc, finalement, vous pouvez tout cultiver en pot. Ça ira très bien aussi.
C'est moins compliqué que de leur mettre des gants et des écharpes, évidemment. La question ensuite, c'est une fois qu'on a bien fait pousser tout ça et que c'est luxuriant dans notre jardin, qu'est-ce qu'on en fait de ces plantes ? Est-ce qu'on les coupe, on les consomme directement ou on les sèche, on les met en pot ou au réfrigérateur, je ne sais pas.
Alors, il y a plein de façons d'utiliser les plantes aromatiques et médicinales. La plus simple, évidemment, c'est de les utiliser fraîches. Donc, on les récolte juste avant de les utiliser. On peut faire, évidemment, des pestos, les utiliser dans les salades, les mettre dans n'importe quel plat mijoté. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. On peut aussi, pour conserver, par exemple, la ciboulette, on peut mettre la ciboulette hachée dans des cubes de glace et puis on réutilise le glaçon, en fait, au moment voulu, en plein cœur de l'hiver, pour avoir une sorte de ciboulette fraîche, par exemple. Donc ça, c'est assez sympa. Mais après, évidemment qu'on peut les utiliser sèches. Donc on va les récolter et puis on va les faire sécher dans un endroit qui est suffisamment aéré, suffisamment sec. Et là, elles vont sécher sur une plaque à gâteau ou accrochées en bouquet. Elles vont garder leurs propriétés. Pour autant qu'elles aient été bien séchées, elles vont vraiment être efficaces, même sèches. Ensuite, on va les conserver comme ça, dans des sachets en papier craft ou bien des bocaux qui vont bien les conserver. Et puis, on pourra les utiliser en plein hiver, quand on a notre petit rhume, là, pour se faire une infusion ou une décoction en fonction des plantes. Et puis, des usages un petit peu moins connus, on a par exemple les macérations dans l'huile, qui permettent de faire certaines huiles cosmétiques ou huiles thérapeutiques qui ont aussi beaucoup de propriétés, et les macérations dans l'alcool, et voilà, etc., etc. Donc il y a plein de façons d'utiliser ces plantes médicinales. Si ça vous intéresse, il suffit de vous renseigner un petit peu. Il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet.
Et puis, je me demandais, Claudine, on voit souvent des grands... du thym, qui sont devenus des très grands buissons. Est-ce qu'on peut aller durant l'hiver en chercher ? Il est encore bon ou on devrait le faire sécher à la fin de l'été pour l'utiliser en hiver ou on peut le récolter même en hiver quand il est gelé ?
Alors en fait, les plantes aromatiques, surtout les plantes, ce qu'on appelle vraiment aromatiques, donc celles qui ont des huiles essentielles, on va dire, mais toutes les plantes, finalement, elles vont faire le plus d'arômes quand elles sont soumises à un stress. Voilà, c'est un peu triste comme ça, mais bref. Donc une plante, elle va vraiment développer toutes ses propriétés maximales, on va dire, au moment de leur floraison, ou bien, ça dépend des plantes, ou bien au moment où elles auront eu un peu soif, par exemple, donc un thym, par exemple, là où il aura le plus de goût, c'est après une période de beau temps et pas une période de pluie, parce que s'il pleut, en fait, ça dilue les huiles essentielles qu'il contient. Donc vraiment, l'idéal pour la plupart des plantes, c'est de les récolter après une période de sec, et puis de les récolter, de les sécher comme ça. Et c'est là que vraiment qu'elles auront le plus d'arômes possible. Donc en hiver, on peut, mais elles auront moins d'arômes et moins de goût et moins de propriétés, en fait.
Merci Claudine. On va repartir en musique et se retrouver juste après pour poursuivre l'aventure et notamment l'aventure des questions des auditeurs et auditrices. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant pour nous poser vos questions jardinage au 0900 70 20 20. Il est encore temps aussi de nous envoyer rapidement un formulaire via notre site internet ou alors de passer par le SMS. On le rappelle, jardin au début de votre message, ce petit mot qui va vous emmener dans notre boîte aux lettres. Et vous envoyez ce message au 939. Mettez-y votre question aussi, évidemment.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, dernière émission de 2022 avant notre retour fracassant en 2023. Oui, ne pleurez pas, Steph. Vous êtes content, vous allez être en vacances. Vous allez pouvoir dormir le samedi matin, quelque temps. Voilà. Donc, les jardinières, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de nous les poser par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939.
Eh bien, on a un premier appel qui nous arrive. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre prénom?
C'est Stéphane Caron, à Paris.
Bonjour Stéphane. On a une liaison un peu compliquée, mais on vous entend. Essayez de parler distinctement, qu'on comprenne bien. Dites-moi, quelle est votre question pour Claudine?
Oui, en fait, je me posais la question parce que je m'intéresse beaucoup aux plantes médicinales aussi. Et puis, je suis allé sur le site de Grünenfelder. Donc, c'est une entreprise de plantes médicinales assez connue en Suisse. Puis, ils ont mentionné qu'apparemment, Swiss Pharma aurait interdit le mot tisane. Est-ce que c'est vrai?
Bonjour Stéphane, merci pour la question. C'est vrai que, je ne sais pas exactement, je n'ai pas pu vérifier cette information. J'imagine que c'est vrai, puisque Grünenfelder est un des plus grands producteurs de plantes médicinales et aromatiques de Suisse romande. Donc j'imagine que c'est vrai, parce que je pense qu'ils ne le diraient pas sur leur site sinon. C'est vrai qu'il y a une législation de plus en plus sévère à l'encontre des plantes médicinales en particulier. Donc Swiss Medic en fait définit selon elle quelles sont les plantes qui peuvent être utilisées en libre usage ou pas. Et il y a vraiment différentes catégories de plantes. Typiquement, il y a les plantes qu'on appelle de loisir en fait, et les plantes qui sont vraiment à usage médicinal. Et toutes les plantes qui sont connues pour avoir un usage médicinal sont parfois réglementées. Donc certaines plantes sont interdites à la vente de loisirs. Par exemple, le millepertuis, qui est vraiment une plante connue depuis très 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 longtemps pour soigner, par exemple, les états dépressifs, en tout cas les coups de blues, quoi. Et cette plante, actuellement, est interdite pour la consommation de loisirs. Donc, les droguistes et les pharmaciens vont avoir le droit de la vendre, mais quelqu'un qui vendrait des tisanes qu'on appelle de loisirs n'a plus le droit de les mettre dedans. Donc, finalement, Swiss Medic régule beaucoup de choses, typiquement l'usage de certains mots, par exemple le mot tisane, qui, a priori, maintenant, est interdit pour les mélanges de plantes de loisirs, quoi.
Ouais, c'est quand même incroyable.
Ben oui, ben ma foi, les lois sont comme ça, je peux pas les expliquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes justement qui sont connues depuis très 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 longtemps pour soigner et qui aujourd'hui sont réglementées. Donc voilà, les arguments qui sont avancés par Swiss Medic sont le principe de précaution en général et la protection du consommateur. Après, ça c'est mon avis tout à fait personnel, mais je pense que typiquement dans le cas du millepertuis, il y a des contre-indications qui sont vraiment connues. Notamment avec la prise d'antidépresseurs du commerce. Et puis, je pense que si les gens sont bien informés, en fait, ils devraient réussir eux-mêmes à gérer ça. Mais voilà, il y a ce principe de précaution qui a avancé par Swiss Medic.
Merci beaucoup, Claudine, pour ces précisions. Stéphane, on espère que ça a pu répondre à vos questions. Et puis, si ça pose d'autres problèmes, bah, directement écrire...
À Suisse Médic.
Voilà, à Suisse Médic. On va se retrouver dans un instant pour la suite des jardinières. Ça sera juste après ce titre de Imagine Dragon Believer.
7h, 8h. Les jardinières.
Et c'est dans les dernières minutes des jardinières que fleurissent toutes nos questions. Nous avons reçu une question de Rosaria de La Chaux-de-Fonds, Claudine, pour vous, qui aimerait savoir si les fleurs qui sont tombées de sa plante refleuriront, enfin si sa plante va refleurir. Et elle nous a envoyé une photo de sa plante d'intérieur. Peut-être commencer par rapidement la décrire.
Bonjour, merci pour la question déjà. On voit une plante qui a l'air d'être une plante assez exotique, hein, avec des grandes feuilles comme ça, et puis des fleurs un peu rouges. Enfin voilà, c'est le genre de plante qu'on trouve souvent en jardinerie en tant que plante d'intérieur. Et effectivement, on voit qu'il y a une fleur qui est tombée. Donc en fait, même si c'est des plantes exotiques, on va dire, elles ont un cycle. Toutes les plantes ont un cycle. C'est comme des orchidées, finalement. Donc, il y a un moment où la plante aura fait son cycle, la fleur aura rempli sa fonction, entre guillemets, et puis elle va mourir et tomber. Et c'est ce qui s'est probablement passé avec cette plante. Elle a fait des fleurs, les fleurs sont tombées, et puis il faut juste lui laisser le temps de refaire son cycle. Donc, elle va peut-être perdre encore quelques feuilles, c'est possible. Mais c'est normal parce que on est en hiver finalement, ou simplement, bah voilà, c'est sa façon normale d'exister. Donc elle va très probablement refleurir si les conditions sont favorables pour elle.
Merci Claudine. Voilà. Pardon, on vous écoutait attentivement avec Steph. On a encore rapidement le temps de répondre à cette toute dernière question de 2022, Steph.
Exactement. Elle est signée Anna. Elle nous dit que elle a des soucis de limaces dans son coin de pays à elle, du côté de Saint-Imier. Alors peut-être pas actuellement, mais de manière générale, elles attaquent ses fruits et ses plantes et elle aimerait savoir comment lutter contre ces limaces de manière efficace. Pourquoi pas avec des plantes.
Alors, c'est vrai que les limaces, évidemment, hein, sous nos contrées, c'est vraiment un problème, entre guillemets. Alors, il y a plein de techniques qui existent pour détruire les limaces, les exterminer, etc. En fait, dans la nature, il y a tellement de limaces que si on veut commencer à détruire toutes les limaces, c'est juste pas possible. Donc, les techniques qui consistent, par exemple, à découper des limaces, c'est une très mauvaise idée parce que les limaces sont cannibales. Donc, si on découpe une limace, en fait, ça va attirer d'autres limaces, etc., etc. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est en permaculture, on a cette idée de travailler avec la nature. Donc, on a regardé des vidéos sur les limaces, je vous promets. Hein. Et puis, en fait, on a essayé de comprendre comment fonctionnent les limaces. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, une limace, elle a besoin de nourriture et elle va se nourrir principalement de végétaux en phase de décomposition. Donc, les fruits tout frais, les petits plantons super frais et tout ça, normalement, les limaces s'y attaquent pas, sauf si elles n'ont pas à manger. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne à manger ce qu'elles aiment. Et on a remarqué qu'elles adorent, en fait, tout ce qui est épluchure, par exemple, de brassicacées, donc le chou, enfin, tout ce qui est de la famille des choux. Et donc, on prend ces épluchures et d'autres épluchures, on les met autour du jardin ou dans des coins choisis. Et en fait, les limaces vont préférentiellement manger ça, en fait, plutôt que nos petits plantons, qu'elles digèrent pas super bien, en fait. Donc, on va leur donner leur nourriture préférée pour qu'elles aillent plutôt là que sur nos plants et nos fruits, nos légumes, etc. Mais après, c'est vrai qu'au printemps, souvent, il y a des œufs de limaces qui éclosent dans les plates-bandes. Et pour éviter ça, en fait, on découvre la terre, si elle était couverte, par exemple, avec des feuilles ou de la paille. On la découvre quelques semaines avant les plantations. On retourne un tout petit peu la terre en surface et les œufs qui auront été plantés, qui auront été pondus là, vont geler ou bien se dessécher. Et ça évitera au moins qu'on ait des petits limaçons dans la plate-bande, quoi.
Merci Claudine de nous avoir épargné de devoir regarder des émissions sur les limaces, quoique ça peut toujours
mais
servir.
Mais c'est super intéressant.
Oui, oui, j'imagine. On rappelle que vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. On vous souhaite de passer de belles fêtes et on se retrouve
merci.
Avec plaisir en 2023 pour de nouvelles aventures au potager.
Merci beaucoup.
Merci, et peut-être qu'on parlera plus en détail des limaces en 2023. Les jardinières, eh bien, vous souhaitent de belles et heureuses fêtes de fin d'année. Si vous recevez une étoile de Noël ou des broméliacées hein, pour les fêtes, ne manquez pas de réécouter nos bons conseils sur ces plantes en podcast sur notre site. Ou si vous recevez, bien sûr, des plantes aromatiques ou médicinales, il y a tout ce qu'il faut. Steve, bonnes vacances.
Bah, merci, pareillement, et de joyeuses fêtes.
Et joyeux Noël, et puis peut-être à bientôt chez les jardinières. Prenez soin de vous. Bonne fête à toutes et à tous. Faites voir encore une fois le Père Noël.
Ho, ho, ho.
Au revoir.
7h, 8h, les jardinières.